Nous sommes dans cette marche pour le climat jusqu'à 14h30 en direct pour la vivre avec tous ces jeunes qui sont déjà réunis, très nombreux ici à Paris, mais également dans toutes les villes de France. À tout à l'heure.
Bonne émission, Mathieu.
Bonjour à vous tous. Terre au carré spécial donc aujourd'hui à l'occasion du coup d'envoi de cette journée de manifestation mondiale pour appeler à l'action contre le réchauffement climatique. Et cela à l'appel de la jeunesse suédoise et à l'appel de Greta Thunberg. Plus de 5000 actions sont attendues autour du globe et dans le monde entier. Ce sont des millions d'élèves qui vont sécher les cours bien partout sur la planète pour participer à cette grève de l'école pour le climat qui devrait constituer l'un des appels à la mobilisation les plus importants jamais organisés. Nous sommes donc en direct de la Place de la Nation avec Camille Cronier. Bonjour Camille.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Voilà, pendant une heure donc avec toute l'équipe de la Terre au Carré, on va faire vivre en direct à nos auditeurs cette manifestation pour discuter avec tous ces jeunes qui se mobilisent autour de la question climatique et puis également avec des scientifiques, des personnalités, des anonymes qui sont présents aujourd'hui dans le cortège. Et puis nous irons bien sûr vous retrouver en région dans plusieurs villes où sont organisées des manifs. Vous pouvez également nous rejoindre avec vos messages en direct sur la page de la Terre au Carré ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag L'Attaque pour nous raconter votre journée de grève et tout ce que vous pensez de cette journée justement de mobilisation. Envoyez-nous également vos photos de grève où que vous soyez, on les postera sur le compte Instagram de l'émission.
Et venez vous voir, pour nous voir pourquoi pas si vous êtes à Paris.
Voilà, il y a du monde, Camille.
On
peut évidemment
monde,
pas évaluer chante... combien, mais...
Ça chante déjà très fort et il y a des banquettes dans tous les sens. Pour l'instant, la préférée que j'ai vue, c'est la Terre Thermostat 7. Ça va pas être possible.
La Terre au Carré, spécial climat, aujourd'hui 20 septembre. C'est parti.
Mathieu Vidard. La Terre au Carré. Sur France Inter.
Activism works. So what I'm telling you to do now is to act. Because no one is too small to make a difference. I'm urging all of you to take part in the global climate strikes on September 20th and 27th. And just one last thing, see you on the streets.
Voilà, c'était la voix de la jeune suédoise Greta Thunberg. C'était lundi à Washington pour inviter la jeunesse du monde entier à descendre dans la rue. Visiblement, elle a été entendue puisqu'il y a eu des manifestations depuis ce matin avec le décalage horaire en Australie en particulier qui a réuni des centaines
des
de milliers
centaines de
personnes,
milliers, ouais.
Camille.
Les photos sont impressionnantes.
Voilà, il y a déjà beaucoup de monde donc aujourd'hui à Paris également et vous êtes certainement très nombreux partout en France. Alors autour de moi, il y a Antoine, Théo, Hugo, Claire, Anaïs, Julien, Ibrahim, Romain. Salut à vous tous, ça va bien ? Vous êtes en forme ? Antoine est avec moi. Alors on va commencer avec toi Antoine parce que tu es un des leaders du mouvement parisien, de cette grève scolaire. Tu es en charge entre autres de la manifestation. Tu as 22 ans, c'est ça ?
Oui, je t'arrête tout de suite sur le mot leader. On n'a pas de leader à Youth for Climate. Je suis un membre de Youth for Climate.
C'est absolument démocratique et tout le monde apporte justement sa contribution. Alors tu es en charge justement d'organiser avec tes potes justement cette manif et tu as fondé ce collectif Désobéissance Écolo Paris. Tu as une pancarte, qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus d'ailleurs ?
Il y a écrit « L'État m'a radicalisé ». Je trouvais que c'était un bon résumé de ma vision de l'écologie, en fait, aujourd'hui.
Ouais.
L'idée, c'est que là, en fait, tu dis on a préparé une marche. En fait, ce qu'on a vraiment préparé, c'est le rassemblement à Bercy. Là, c'est toute l'après-midi, avec des ateliers, des espaces de discussion pour vraiment réfléchir à la stratégie de l'écologie. Parce que les marches, en fait, peu à peu, à Youth for Climate, on en a marre, en fait. Pour nous, ça sert vraiment de moins en moins quelque chose, les marches, parce qu'on en a eu énormément. On voit qu'on fait face à un État qui est complètement sourd et muet. On a une démocratie participative qui, en fait, ne fonctionne plus. Et en fait, les marches, c'est vraiment pas ce qui nous intéresse. Ouais. Maintenant, ce qui compte, c'est de pousser vers une stratégie de radicalisation pour mettre la pression au gouvernement et peut-être même faire naître une étincelle révolutionnaire.
Donc, tu es en train de dire que tout ce qui se passe ici à Paris, ailleurs en Europe et même ailleurs dans le monde, parce qu'il y a des marches partout aujourd'hui, ça sert à rien.
Non, je dis ça pour être un peu provocateur. Les marches, ça sert pas totalement à rien. Déjà, ça sert à se rassembler, à se retrouver, à discuter entre nous. Et puis, ça permet, en fait, de, grâce à la marche, on va être beaucoup tout à l'heure à Bercy. Et donc, on va avoir beaucoup de monde qui va venir aux ateliers. Les marches aussi, ça peut être très intéressant pour des actions de désobéissance civile. Ça permet de rassembler beaucoup de gens au même endroit. Et ensuite, d'avoir une stratégie, comme ils font à Endegelen 2, par exemple, en Allemagne, où ils bloquent la plus grande mine de charbon d'Europe chaque année.
Ouais. Qu'est-ce qui t'a radicalisé au fond alors ?
Bah, comme j'ai dit sur la pancarte, c'est l'État, c'est le fait qu'on a un système à la fois politique et économique qui est complètement intriqué. On a les pouvoirs politiques, économiques et médiatiques qui sont quasiment les mêmes aujourd'hui. Un exemple pour vous montrer à quel point la voie institutionnelle ne fonctionnera jamais. on a le fait d'actualité, là, ce maire de Langouet qui a demandé d'interdire les pesticides à 150 mètres des habitations. Un sondage IFOP a été fait pour l'occasion. 96% des Français sont favorables à cet arrêté. Et le gouvernement s'en moque complètement. Et même pour se moquer de la figure des écologistes et des experts de la santé, ils nous font un décret de 5 à 10 mètres, ce qui est évidemment complètement insuffisant.
Ouais. Donc ça, c'est évidemment des thématiques qui vous intéressent tous et qui mobilisent les gens aujourd'hui. Ce matin, sur France Inter, Alain Finkielkraut, le philosophe, disait qu'on avait mieux à faire pour sauver ce qui peut l'être que de nous mettre au garde à vous devant Greta Thunberg et d'écouter les abstraites sommations de la parole puérile. Qu'est-ce que ça t'inspire, Antoine ?
C'est peut-être dit de manière un petit peu cash. On peut peut-être essayer d'être un peu plus diplomatique, mais c'est vrai qu'avec Greta Thunberg, il y a un problème. Alors, c'est pas envers Greta elle-même. Greta, en fait, elle a beaucoup de pression. Il y a des boîtes de communication derrière elle qui font énormément de greenwashing. Le problème de Greta, c'est que voilà, c'est une sorte de figure un peu divine. Nous, on n'en voulait pas au mouvement français, et je crois qu'on s'est bien débrouillé pour pas en avoir. Et il y a aussi quelques petits problèmes, quelque chose que j'ai reproché dans le discours de Greta, notamment son rapport au GIEC et à la vision scientifique en général. Pour moi, il y a une grande partie de l'écologie qui n'est pas du ressort de la science, en fait, qui est du ressort plus émotionnel, philosophique, spirituel. Et donc, on n'est pas là, nous, en France, pour demander plus de pouvoir aux décideurs scientifiques. Mais voilà, c'est une critique que je peux faire à Greta.
Ouais, mais critiquer la parole juvénile en soi, au-delà même de Greta Thunberg, ça te fait pas mal un peu quand même ?
Non, ça par contre, je pense que la jeunesse a vraiment une voix à porter. Et c'est ce qui se passe en fait aujourd'hui. On voit que la jeunesse a moins peur des mesures radicales qu'avant. Et ça, c'est vraiment un espoir, parce qu'en fait, si on écoute, ne serait-ce que donc les scientifiques, mais pas seulement les scientifiques, en fait, toutes les personnes qui se posent vraiment des questions en écologie, on sait que les changements à faire sont absolument radicaux. Et la jeunesse semble plus prête pour ça que les adultes.
Bon, Antoine, on va te laisser filer parce que je sais que tu vas justement à Bercy. La marche, elle parle donc de nation. Là, on est en cours. Là, on est boulevard Diderot, et puis elle va jusqu'au parc de Bercy, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, parc de Bercy. Et donc toute l'après-midi, on a donc des ateliers avec des chercheurs, des associations. Qui vont donc donner envie aux jeunes de s'engager, proposer des méthodes d'action directe. Et ensuite, on a des concerts de 19h à 21h.
Voilà, donc c'est le rendez-vous pour les Parisiens. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent également partout en France. On aura des liaisons avec tous ceux qui sont dans les manifs également en région. Merci Antoine. Et puis on va parler avec tous tes camarades. Bonne manif à toi, en tout cas, bonne marche. Camille.
Alors moi, je suis à côté de Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Tu as quel âge ?
9 ans.
Voilà, Marie, elle a 9 ans, elle est au CM1. Alors, t'es venue ici pour protéger la planète, t'es avec ta maman ?
Oui.
Tu peux m'expliquer pourquoi tu veux protéger la planète à 9 ans au CM1 ?
Parce que sinon, on n'aura pas... Nous, les enfants, on n'aura pas un bon futur. Et parce que sinon, tous les animaux vont mourir. Et moi, ça me touche pour la planète.
Est-ce que t'as déjà manifesté avant aujourd'hui ?
Non, jamais.
Alors, t'es pas allée à l'école. Maman, vous êtes d'accord pour qu'elle n'est pas à l'école aujourd'hui ?
Mais c'est pour la bonne cause.
T'es la seule de ta classe ou il y en a d'autres qui ont séché comme toi les cours ?
Non, je suis la seule.
Et alors, tu trouves ça comment ? C'est la première. Raconte un peu pour les gens qui sont pas avec nous et qui voient pas.
Bah, je trouve ça super. J'aime bien.
C'est sa première manif. Alors, il y a ce panneau hein, juste devant, justement, cette petite fille. Le CM1 de Jean Rostand, pas de nature, pas de culture, sauvons les animaux, petits efforts, grands résultats. Et sauvons la planète, ça, c'est évidemment un message qu'on entend beaucoup, là, Camille.
C'est un exposé que tu as fait pour ta classe.
Oui.
C'est toi qui as fait tout ce panneau, là ?
Avec ma classe.
Super. Merci et bonne manifestation, Marie, alors.
Merci, au revoir.
Allez, on va continuer cette marche avec tous ceux qui nous entourent. Il y a Anaïs qui est là. Bonjour, Anaïs.
Bonjour.
Alors, il y avait également une camarade à toi, c'était Julie, qui va venir nous rejoindre. Alors, il faut dire quand même aux auditeurs de la Terre au Carré qu'il y a énormément de différentes organisations au sein de cette marche. Hein.
Bien sûr, il y a énormément d'ONG différentes. Par exemple, nous, le REFET, c'est le Réseau français des étudiants pour le développement durable. On est un réseau d'associations étudiantes qui œuvrent sur des projets dans le développement durable. Et ils sont nombreux aujourd'hui, et il y a plein d'autres organisations adultes aussi, et les syndicats qui soutiennent cette marche notamment.
Et alors, tous ensemble, vous arrivez à vous coordonner pour organiser quelque chose de cohérent ?
Alors, en effet, par exemple, toutes les personnes là que vous allez interroger aujourd'hui, pour beaucoup, on se connaît, on essaye vraiment de communiquer entre nous. Et en effet, on essaye de s'organiser au maximum pour être tous présents sur cette marche et rassembler vraiment tout le monde pour ce genre de mobilisation.
Julie, viens me voir parce que tu es là aussi. Alors toi, je vois Up for Europe, ça c'est encore une autre organisation. Alors raconte-nous un peu, c'est quoi ?
Oui, alors c'est plutôt un projet. En gros, c'est un tour d'Europe que des étudiants français vont réaliser à la rencontre des autres étudiants européens. Et le but, ça va être d'écrire avec eux un corpus de propositions politiques concrètes pour une Europe plus écologique. Et on va finir notre tour à Bruxelles, où on va faire du lobbying étudiant là-bas pour faire, pour faire pression sur les dirigeants européens et leur montrer qu'en fait, les jeunes Européens ont leur mot à dire sur la question climatique, en fait.
Est-ce que tu as regardé ce qui se passait au niveau des rendez-vous aujourd'hui, des mobilisations ? Est-ce qu'il y a du monde dans les autres capitales, villes européennes ?
Oui, il y a plein de mobilisations qui ont été lancées partout en Europe, dans plein de pays. Ça prouve aussi que la jeunesse se mobilise, que la jeunesse veut s'engager, veut aller plus loin. Et comme on dit, on veut aussi aller plus loin que des marches, de simples marches. On veut aussi montrer qu'on a des réflexions, qu'on a des idées, qu'on est engagé. D'où le fait de me dire, bah, nous, on va aller sur les territoires européens, on va aller poser les questions aux jeunes, on va savoir ce qu'ils veulent. On va créer un espèce de programme politique écolo pour l'Europe, pour ce qu'on a envie de faire. Et à Bruxelles, là, ça va être le gros challenge, c'est de se faire entendre. De faire entendre la voix des jeunes, en fait, ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a des choses à dire.
Ouais. Anaïs, qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement, à ceux qui nous dirigent, à ces dirigeants européens et à l'échelle mondiale également ? Parce que c'est ça aussi le sens de cette marche, c'est de leur dire, attention, aujourd'hui, c'est le dernier avis qu'on vous donne, on veut absolument des résultats maintenant.
Hein. En effet, j'aimerais revenir sur le fait qu'on dit beaucoup que les jeunes se mobilisent, font des grèves, ne vont pas à l'école, mais qu'il n'y a pas d'action. On voudrait dire que, aussi, ces mobilisations peuvent être importantes. Par exemple, on en a un exemple flagrant hier, des députés, plus de 80 de tous les bords politiques, ont déposé une proposition de loi pour un enseignement supérieur qui va prendre en compte les enjeux climatiques dans la formation, notamment au niveau scolaire, mais aussi au niveau de l'enseignement supérieur. Les députés qui ont déposé, cette proposition de loi ont notamment déclaré qu'ils réagissaient face aux mobilisations des jeunes et qu'ils réagissaient face à l'appel des chefs d'établissement et aussi au manifeste pour un réveil écologique par exemple. Et tout ça, c'est des actions jeunes, c'est des actions de la jeunesse qui se mobilisent et qui à côté poussent pour faire ce genre de choses. Alors c'est une avancée, c'est un exemple, mais c'est vrai que ça bouge pas assez vite. Et donc à côté des mobilisations, en effet, les jeunes, c'est un mouvement profond. Ils sentent vraiment la différence entre l'urgence climatique et les actions qui sont menées. Je pense qu'on ne s'arrêtera pas là. Cette proposition de loi, c'est très bien, mais c'est vraiment pas assez pour le moment. Il nous en faut vraiment plus.
Alors c'est ça, il faut vraiment plus de résultats maintenant. Les enjeux sont extrêmement importants et vous êtes très en attente de choses très, très constructives et beaucoup plus efficaces pour l'instant que ce qui se fait. Camille, pour voir plus clair, est-ce que vous pouvez tout simplement nous rappeler en quoi cette grève mondiale existe aujourd'hui ?
Alors ce sont en fait des manifestations aujourd'hui partout dans le monde. D'Ushuaia, c'est le plus au sud, à Sydney, en passant par le Svalbard, territoire norvégien aussi haut que le cercle polaire, le Kenya, l'Inde, les Seychelles, le fin fond du Canada, l'Alaska ou les îles Salomon perdues dans le Pacifique. Des millions de jeunes qui défilent aujourd'hui dans 156 pays et ne vont donc pas à l'école pour demander aux dirigeants, on en parlait, de se bouger et d'agir pour le climat. C'est évidemment la Suédoise, hein, Greta Thunberg, on ne la présente plus, qui a lancé ses Fridays for Future, les vendredis de grève de l'école, depuis le mois de février. Et là, c'est un petit peu aujourd'hui la rentrée mondiale. Hein. Elle veut que tout le monde se mobilise avant l'Assemblée générale de l'ONU, lundi et mardi à New York. Elle est là-bas, vous savez qu'elle a fait la traversée de l'Atlantique à la voile pour ne pas prendre l'avion. Et des actions doivent avoir lieu tout le week-end et puis toute la semaine, surtout avec la jeunesse. Donc, mais pas que. Hein. Il y a d'ailleurs des gens qui sont d'un certain âge autour de nous également.
Ouais,
et puis, il y a des salariés qui se joignent au mouvement. On a vu des salariés d'Amazon, de Google ou encore de Microsoft se mobiliser aujourd'hui.
Alors, on va rejoindre Ivy qui est à Angers en ligne avec nous. Bonjour Ivy.
Bonjour.
Allô Ivy. Bonjour. Ça va bien ?
Vous m'entendez bien ou pas ?
Très bien. On vous entend super bien. Qu'est-ce qui se passe à Angers ? Est-ce qu'il y a du monde ?
Alors nous, ça commence à 14h, donc c'est drôle parce que ça arrive, on voit les gens qui sortent du tram, ça commence, nous le départ c'est Place du Ralliement, donc ça commence à arriver, on voit des gens qui ont des costumes d'ours blancs, donc je sais pas quelle heure il est là, mais ça va commencer à...
Il est moins le quart.
Ok, bah ça va, on a encore un peu de temps, mais ouais, ça commence à arriver.
Alors Ivy, vous faites partie de Youth Climate et vous êtes étudiante en théâtre, en comédie musicale. Et à Angers, ça s'était mobilisé très très fort en mars dernier. Hein.
Ouais, c'était assez fou. Donc on avait commencé ça avec donc un groupe d'amis et on s'est justement rencontrés aux marches qu'il y avait eu suite à la démission de Nicolas Hulot et on a tout simplement créé un événement sur Facebook mais sans savoir du tout comment on organisait une grève. Et suite à ça, cet événement, ça a explosé d'un coup en médiatisation et c'est comme ça que ça a commencé. Et aujourd'hui, on est là et depuis, c'est passé plein de choses et on n'aurait jamais pensé qu'il aurait pu se passer autant de choses. Au niveau de la mobilisation de la jeunesse, ça c'est vraiment super chouette, mais après au niveau politique et entreprise, bon voilà, je sais pas si ça a réagi quoi.
Mais ça bouge quand même un petit peu, hein. Ça sert quand même à quelque chose toutes ces manifestations, sinon j'imagine que
ouais,
tous ceux qu'on voit et vous-même, vous ne seriez pas dans la rue.
Bien sûr, je pense qu'on n'a jamais autant. Allô ?
Oui, on vous entend.
Ok, désolée. On n'a jamais autant parlé d'écologie, et puis là, c'est cette marche est le 20, c'est que dans 3 jours, le 23, donc il y a un sommet consacré
à l'ONU.
À l'ONU, et donc du coup, ce serait bien de mettre la pression pour ça, quoi.
Très bien, Evie, merci beaucoup. En tout cas, vous faites une bonne marche, vous, à Angers. Et puis, pour tous ceux qui nous écoutent, où que vous soyez, vous pouvez nous envoyer vos messages sur le hashtag LATAC sur les réseaux sociaux, vos photos sur le compte Instagram de La Terre au Carré. On écoute Michael Kiwanuka.
Voilà.
Et you ain't the problem. Et on se retrouve juste après, en direct de cette marche à Paris, cet après-midi, dans La Terre au Carré.
France Inter, La Terre au Carré.
Show me the feeling. You got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie. Love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself. No need to die. I'm only human. I'm done. You got to put me on. I know when you come along. Don't hesitate. Time. Feels the pain. You ain't the problem. I point the gun that you for fun. You are the problem. I try to help myself, you are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling. Don't hesitate, time heals the pain. You ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem.
Voilà Michael Kiwanuka à l'instant sur France Inter. Nous sommes en direct donc de la marche pour le climat, cette grève mondiale pour le climat, manifestation de tous ces jeunes en direct donc sur France Inter. On est encore boulevard Diderot. On se dirige vers le parc de Bercy avec tous ces jeunes qui sont là nombreux. Évidemment, on n'arrive pas à les estimer puisqu'on est en tête de cortège. Et puis vos messages sur franceinter.fr sur le hashtag l'attaque. Bravo les jeunes, dit Michel. Votre mobilisation est merveilleuse. De tout cœur avec vous. Mais sachez que vous avez le pouvoir aussi dans les urnes où vos bulletins ne sont pas assez nombreux pour changer la France et le monde. Il faut choisir la couleur de l'espoir. Voilà, Romain réagit d'ailleurs. Ça va, Romain ?
Oui, ça va super.
T'as entendu le message ? message de notre auditrice.
Ouais.
Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, dans les urnes, on essaye de se mobiliser. On peut voir le vote des jeunes aux dernières européennes, où il y a déjà eu beaucoup plus de participation que sur les dernières élections. Et je crois que le message est fort sur le vote qu'ont eu les jeunes, sur les partis qui s'emparent vraiment de ces questions-là.
Est-ce que toi, la politique, ça t'intéresse en soi?
La politique, oui. Après, il y a différentes formes de politique. Pour nous, on est engagés associativement. On fait aussi de la politique.
C'est la bascule.
La bascule, ouais.
Qu'est-ce que c'est?
La bascule, c'est un mouvement qui a pour objectif d'accélérer la transition écologique, sociale et démocratique, en se mettant au service de toutes les initiatives qui existent déjà à l'échelle nationale, mais aussi dans les territoires. Beaucoup de choses se passent au niveau des territoires qu'il faut mettre en avant et qu'il faut porter.
Camille,
oui,
où es-tu?
Je suis partie au milieu du cortège. J'ai décidé d'aller faire un petit tour des pancartes parce que je trouve que c'est toujours ce qu'il y a de plus frappant dans ce genre de manifestation. Alors je vous en donne quelques-unes qui sont juste sous mes yeux. J'ai mal à la Terre, bon ça c'est assez classique. La planète, tu la veux bleue? Ok Google, c'est quoi une fleur? Vous voyez, il y a pas mal de cynisme. Un très joli aux arbres citoyens. Et puis il y a une grande pancarte de Sciences Po qui dit Sciences Po en vert, leur politique à terre. Donc même les étudiants Sciences Po s'y mettent.
Mais oui, Sciences Po, ils ont même un petit groupe qui s'appelle Sciences Potager et ils adorent l'environnement aussi à Sciences Po. Théo, salut.
Salut.
Alors toi, tu fais partie de Youth for Climate, évidemment. On entendait Antoine tout à l'heure très critique sur la figure de Greta Thunberg. Toi, t'as 17 ans, t'es un des plus jeunes là dans le groupe avec lequel on s'est réunis. Donc t'as quasiment le même âge que Greta. Est-ce que tu es aussi sévère que Antoine?
Alors moi, je parlerai pas forcément de sévérité, mais enfin... Comment dire, le mouvement, au sein du mouvement, on est sur beaucoup de sujets très divisés et Greta, c'est un des sujets aussi, voilà, sur lequel on a beaucoup d'opinions qui divergent parce que il y en a qui sont contre justement cette représentation, d'autres qui respectent beaucoup, enfin, ce qu'elle fait, parce que dès qu'elle parle, elle parle en son nom et pas au nom d'autres personnes. Et il y a l'acharnement médiatique aussi d'un autre côté qui est assez assez pénible pour certains. Et dès qu'on fait référence au mouvement Youth for Climate, on dit ah oui, le mouvement de Greta Thunberg. Et il y en a beaucoup que ça dérange. Et donc oui, voilà, ça crée des divisions.
Quand on a 17 ans comme toi, qu'est-ce qui donne envie d'aller dans la rue un vendredi et de faire la grève?
J'ai envie de dire l'incertitude. C'est qu'on n'a aucune idée, aucune vision de notre avenir dans 10 ans, dans 5 ans, dans quelques années. On n'a plus aucun référentiel en fait. Enfin, peut-être que ce n'est pas le sentiment de tous les étudiants, voilà. Mais quand on s'est renseigné sur les questions climatiques, questions d'urgence sociale, etc., on ne peut plus faire comme si de rien n'était en fait. On est obligé de trouver quelque chose pour avoir un nouveau projet. Et moi, c'est ça que j'ai eu avec Youth for Climate. C'est que c'est un moment, ça m'a donné, en plus d'autres engagements que j'avais, une nouvelle dynamique pour justement rester à flot.
Est-ce que tu en parles avec tes parents? Ça discute beaucoup dans ta famille. Je sais que ta sœur est engagée aussi, hein, comme toi.
Oui, justement, oui, ma sœur qui était déjà passée dans l'émission. Elle avait... Oui, enfin, mes parents, j'en discute un petit peu. Enfin, même beaucoup, en fait, avec ma mère. Un peu moins avec mon père, mais enfin, voilà, c'est quelque chose quand même dans ma famille qui est compris et c'est pas un problème. Je sais qu'il y a des élèves, des étudiants, des jeunes qui ont beaucoup plus de mal à faire passer ça auprès de leurs parents, de faire la grève le vendredi. C'est pas quelque chose qui passe souvent.
Donc ils approuvent finalement le fait que tu sois ici plutôt que d'être en cours?
Oui, essentiellement, je pense que oui.
Bon, Théo, je vais te laisser filer parce que toi aussi, je sais que tu pars au parc de Bercy pour l'organisation. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas?
Là-bas, je serai moi au niveau de la scène, donc à la régie son et un peu d'animation sur scène, voilà.
Donc il y a du boulot là. Ouais. Donc je te laisse courir et puis bon après-midi à toi. Merci beaucoup, Camille.
Oui, moi je marche à côté de Raphaël. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes prof de collège, vous êtes prof d'anglais.
Prof d'anglais en collège lycée, oui.
Mais vous n'êtes pas en classe cet après-midi?
Non, j'ai fait la grève aujourd'hui pour la planète.
Est-ce que vos élèves sont avec vous? Vous êtes venu tout seul et ils vous attendent?
Je suis venu tout seul et je crois que si... Je crois être le seul professeur de mon établissement qui est en grève aujourd'hui, en fait.
D'accord. Et vos élèves, ils n'ont pas voulu venir avec vous? Vous n'avez pas essayé de les sensibiliser?
En fait, je ne convoque pas mes élèves à la grève parce que, d'après la loi, les élèves n'ont pas le droit à faire la grève. En fait, ça c'est blanc sur noir. Moi, j'ai le droit à le faire. Je ne peux pas faire des propos politiques ou sociaux de quoi que ce soit l'idéologie à mes élèves. Et pourtant, je peux non pas les sensibiliser, parce qu'ils sont déjà bien sensibilisés, mais lui parler de ce mouvement, parce que Et c'est la science qui m'avale, en fait. La science est derrière moi. Je peux parler des faits scientifiques, sociaux, et de sociologie et des phénomènes qui de l'actualité mondiale. Le tout en anglais, que c'est mon métier. Et je l'ai fait, bien entendu. Alors, j'anime mes élèves à faire la grève, mais j'anime à lui parler à ses parents et voir qu'est-ce que ses parents ils pensent.
D'accord. Donc là, cet après-midi, c'est la manif avec les jeunes pour Raphaël, professeur d'anglais au collège ici. Voilà, Mathieu, je le laisse continuer de défiler.
Alors justement, j'ai à mes côtés un scientifique qui s'appelle Fabio. Bonjour, Fabio.
Bonjour.
Fabio D'Andrea, climatologue au laboratoire de météorologie dynamique à l'École normale supérieure. C'était important pour vous, évidemment, d'être ici, Fabio.
Bah oui, c'est important. C'est très excitant. Je suis très content d'être ici. En même temps, c'est un peu déconcertant. Il faut imaginer que moi, comme mes collègues, on a étudié la physique, on a fait des équations dans notre coin, et là, on se trouve avec un sujet d'étude qui remplit les places, qui, avec des enjeux colossaux, et on est porté à parler au public, à parler à la presse. Donc, c'est vraiment bizarre pour nous.
Ouais, mais qu'est-ce que ça vous dit, justement, ces jeunes aujourd'hui qui arrivent à mobiliser, à faire descendre d'abord la jeunesse, mais également, il y a plein d'adultes ici, évidemment, dans la rue. Ça, les scientifiques n'arrivent pas à le faire aujourd'hui. Pourquoi?
Bah, c'est un constat qu'on fait. Eux, ils ont trouvé la manière de parler au public. Et nous, on ne l'avait pas trouvé avant. Et donc, c'est mieux. Bien comme ça. Et merci à ces lycéens, à ces jeunes qui ont trouvé la manière vraiment de faire passer ce message.
Ouais, mais entre collègues, ça vous fait réfléchir beaucoup sur votre manière de communiquer auprès du public aussi ou pas?
Bah, évidemment, oui. Moi-même, j'ai un peu changé. Moi, je faisais mon travail dans mon coin. J'essayais d'être au-delà des problèmes sociaux. Mais maintenant, j'ai un peu changé. Et donc évidemment on réfléchit beaucoup, mais pour faire bref, je pense que on peut plus être ceux qui disent ça c'est faux, ça c'est vrai, et on doit vraiment rentrer dans la société, accepter que notre voix est une des voix qui est là dans le marché des opinions, et on doit apprendre à faire passer notre parole.
Pourtant, vos études marquent les esprits. La dernière en date, celle justement qui a été publiée cette semaine sur les simulations du climat pour le futur, qui sont encore pires que ce que l'on pensait, avec des températures de 7 degrés plus importantes qu'aujourd'hui. Et ça, la population l'entend, évidemment, les jeunes l'entendent.
Oui, c'est vrai.
C'est ce qui mobilise d'ailleurs quand même aussi, non?
Oui, je pense qu'on commence à se faire entendre par certaines parties de la société. Je pense qu'il y a encore des frontières, typiquement le monde de l'entreprise, le monde du travail et le monde de la finance.
Ouais.
Et effectivement, comme vous le dites, on a présenté les résultats des deux modèles de prévision climatique français. Et oui, c'est vrai, le scénario le plus pessimiste prévoit un degré de plus par rapport à ce qu'on pensait avant.
Ouais. Mais ça, c'est une extrêmement mauvaise nouvelle quand même.
C'est une très mauvaise nouvelle, mais c'était mauvaise nouvelle déjà avant. On passe de 6 à 7 degrés. On peut espérer aussi qu'on ne passera pas par ce chemin-là du scénario le pire.
Oui, évidemment, puisqu'il y a quand même plusieurs scénarios possibles, heureusement.
Tout à fait. Et comme c'est très difficile, c'est encore plus difficile de prévoir le percours qui fera la société et l'économie dans le futur qu'il est de prévoir le climat.
Ouais.
Donc on fait plusieurs scénarios et on prévoit différents climats possibles selon des deuxièmes scénarios. Différents scénarios.
Et donc vous êtes gréviste aujourd'hui en tant que climatologue, Fabio?
Bah, en fait, les chercheurs, ils ont cette chose bizarre qu'ils travaillent tout le temps. Donc être en grève ou pas, pour moi, oui, je suis dans la rue.
Mais vous travaillez
mais
ou pas aujourd'hui?
On n'arrête jamais de penser à la science quand on est à la maison, quand on se douche. Donc enfin, les horaires de travail, pour nous, c'est un peu bizarre.
Et ils marchent science aussi.
Donc défiler, ça fait aussi partie du travail, finalement.
Tout à fait, ouais.
Allez, on va bientôt partir du côté de France Inter dans les studios pour les informations, puisqu'il est bientôt 14h. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette marche ici à Paris. Mais je sais que vous êtes mobilisés partout en France et partout
dans le monde,
puisque les chiffres sont très impressionnants.
Il y a 156 pays, il y a plus de 5000 actions partout dans le monde. Ça va vraiment partout, sur tous les continents, au milieu du Pacifique, au milieu de l'océan Indien, sur le territoire américain, partout en Europe, en Afrique et en Asie. Il y a juste en Chine où c'est interdit de manifester. Ouais.
Allez Claire, on se retrouvera tout à l'heure après les infos parce qu'il y a encore plein de jeunes qui sont avec nous pour discuter. Tout va bien pour toi?
Oui, tout va bien.
Bon, on va discuter juste après les informations parce que sur France Inter, il est pile 14h. Oui. Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, il n'ira pas. Le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, annonce cet après-midi le retrait de sa candidature pour l'investiture démocrate aux États-Unis. Je crois, dit-il, avoir contribué du mieux que je pouvais, mais ce n'est à l'évidence pas mon heure. Twitter annonce aujourd'hui la suppression de plusieurs milliers de comptes. Ils sont accusés de répandre des fausses informations et selon le réseau social, ces comptes sont liés à des gouvernements émiratis, égyptiens, espagnols, chinois, équatoriens ou encore saoudiens. Les syndicats d'XL Airways dénoncent aujourd'hui le poids des taxes et la guerre des prix. C'est ce qui a conduit la compagnie aérienne au dépôt de bilan. Le SNPL évoque un combat inégal entre les compagnies. Le syndicat de pilotes redoute une hécatombe d'ailleurs dans le secteur. C'est la deuxième compagnie aérienne en difficulté en quelques semaines après Aigle Azur. Le patron d'XL Airways déclare lui pour sa part aujourd'hui que sa compagnie a besoin de 35 millions d'euros pour repartir. La vente de billets est suspendue depuis hier. Les vols seront assurés ce week-end. Les premières difficultés, dit-on, pourraient avoir lieu lundi. 3 mois de prison avec sursis et 8 000 euros d'amende pour Jean-Luc Mélenchon. Des amendes pour les 5 autres élus de la France Insoumise qui étaient poursuivis pour rébellion lors de la perquisition l'an dernier du siège de leur parti. Ce sont donc les réquisitions du parquet. Aujourd'hui, parquet de Bobigny. Tout se souque pour ça. Réaction de Jean-Luc Mélenchon à la sortie du tribunal. Cet après-midi, ce sera au tour de leurs avocats de plaider avant la mise en délibéré probable du jugement. Le tribunal administratif de Lille annule aujourd'hui une sanction contre 6 surveillants de prison. Ils avaient été mis à pied par le ministère de la Justice après le mouvement de blocage des prisons l'an dernier. Une annulation pour une procédure entachée d'irrégularité. Le parquet de Lorient fait appel aujourd'hui de la relaxe d'une assistante maternelle. Elle avait été retrouvée ivre alors qu'elle gardait un enfant de 16 mois. C'est le père du bébé qui avait porté plainte. Il l'avait retrouvé déambulant donc son enfant chez sa nourrice qui elle était affalée dans son canapé, avec une alcoolémie de 2,46 grammes. La marche pour le climat, vous y êtes Mathieu Vidard dans la Terre au Carré et dans les rues de Paris. Le cortège parti de la place de la Nation doit se rendre à Bercy. A priori la mobilisation est importante chez les lycéens et les étudiants. Ce matin déjà plusieurs milliers de personnes ont défilé un peu partout en France. À propos de la lutte contre le réchauffement climatique, la plus grande expédition scientifique jamais réalisée dans l'Antarctique doit entamer aujourd'hui une mission internationale, 1 an pour étudier les conséquences du changement climatique au pôle Nord. 600 scientifiques vont se relayer sur le brise-glace Polar Stern pendant 2500 km. 14h03 sur France Inter, la suite de la Terre au Carré en direct de Paris et de la marche pour le climat, Mathieu Vidard.
La Terre au Carré. Voilà, si vous nous retrouvez cet après-midi, nous sommes en direct de la manifestation pour le climat, la grève pour le climat, à la demande de tous ces jeunes du monde entier qui se déroule aujourd'hui, en tout cas pour Paris, entre la place de la Nation et le parc de Bercy. Là, nous sommes encore boulevard Diderot, nous descendons tranquillement vers Bercy et jusqu'à 14h30, on vous fait vivre en direct cette première journée de grève emmenée par les jeunes. Demain, il y aura une autre journée avec des manifestations partout en France. Hugo est avec moi pour Climate. Ça va, Hugo ?
Ça va très bien.
Alors, pourquoi il y a deux manifestations d'ailleurs ? Aujourd'hui, les jeunes, demain, plus largement, toute la population. Pourquoi on n'arrive pas à en faire qu'une ?
Alors, les jeunes font la grève. Donc, une grève, c'est forcément un jour de semaine. Donc, parce que ça envoie un message. On nous disait, voilà, pourquoi vous ne le faites pas le samedi ? En fait, ça envoie un message beaucoup plus fort de faire la grève, de faire quelque chose qui est interdit. Et du coup, le samedi, c'est aussi pour inclure toutes les personnes qui ne peuvent pas se permettre de ne pas aller au travail le samedi et pour faire la convergence entre les luttes sociales, les luttes environnementales et le progrès démocratique.
Qu'est-ce qui a changé en un an, à ton avis ? Est-ce que les choses ont quand même un petit peu bougé ? Et quel est ton état d'esprit comme ceux de tes potes, là, aujourd'hui ?
Ouais. Alors là, c'est la 3e grève mondiale des jeunes pour le climat. À chaque fois, c'est toujours les mêmes frissons. De savoir que partout dans le monde, en cette même journée, il y a des jeunes qui se mobilisent. Le 15 mars, on est entre 1,5 et 2 millions de personnes à travers le monde. Et on a vu que, en fait, cette génération climat a jailli d'un coup et a montré son intérêt pour les questions climatiques et tout simplement a compris l'importance de ce défi à relever pour assurer un avenir socialement juste et écologiquement viable.
Mais les Français, ils bougent bien dans toute cette affaire ou pas ? Parce qu'on voit ce qui se passe dans d'autres pays, c'est quand même très impressionnant. Il n'y a pas l'ampleur quand même ici, même à Place de la Nation. Je ne sais pas combien on est, évidemment, pour l'instant, on n'a pas les chiffres. Mais ça n'égalise pas, en tout cas, du tout les marches en Australie ou ailleurs.
Je sais pas combien on est aujourd'hui. D'ici, on voit qu'on est. Il y a énormément de gens derrière nous. Quand on a vu les images en Australie ce matin, c'était vraiment impressionnant.
Les 100 000 personnes. Hein.
Voilà, c'est incroyable. Et partout dans le monde, c'est ça. Il y en a aussi la semaine prochaine. Par exemple, je sais qu'à Montréal, ils vont avoir une manif énorme le 27. Donc ça jaillit de partout. Et maintenant, le but, c'est des actions. C'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça?
Est-ce que les images suffisent, par exemple, aujourd'hui à New York, donc où l'Assemblée générale de l'ONU se réunit mardi prochain, aujourd'hui, ce vendredi, est prévu un grand rassemblement. Toute la manifestation doit déboucher devant l'ONU à New York. Est-ce que le pouvoir de l'image, finalement, est plus important que le pouvoir des urnes aussi, parce que les jeunes, vous votez pas beaucoup?
En effet, je pense que aujourd'hui, les manifestations permettent d'envoyer un message. Mais après, il y a toute cette question, est-ce que c'est vraiment... Juste pour les élections présidentielles ou européennes, une fois de temps en temps où on va voter, est-ce que faut absolument qu'on se manifeste toujours? Donc ça pose la question de la démocratie, comment on fait passer les messages derrière,
hein. Oui, parce que je dis les jeunes, vous votez pas beaucoup, évidemment, ceux qui ont plus de 18 ans, ceux qui ont moins de 18 ans ne votent pas du tout, donc c'est aussi une façon pour vous de vous faire entendre autrement?
Aujourd'hui, la manifestation, en effet, c'est une façon parmi d'autres, il y a de la désobéissance civile, il y a aussi aller faire du plaidoyer, aller voir ces responsables politiques pour leur demander d'agir. Et c'est vrai que là, s'unir tous ensemble en cette journée, c'est hyper important pour envoyer un signal fort et dire qu'on est prêt.
Et à ceux qui vont vous dire c'est pour sécher les cours et être tranquille le vendredi, qu'est-ce que vous leur répondez?
C'est vrai qu'on l'a énormément entendu. Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, déjà, rejoignez-nous. Parce que ça sert à rien de nous dire qu'on ne fait rien si ou que ça ne sert à rien si vous ne bougez pas non plus. Et puis au-delà de ça, on a très bien vu à l'échelle internationale que ça bougeait. Et encore là pour le sommet de l'ONU, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a envoyé des signaux forts. Et la justification, c'est la jeunesse, la mobilisation de la jeunesse. Donc oui, ça fait bouger les choses d'une manière ou d'une autre.
Allez, on va aller retrouver Héloïse, je crois, qui est en ligne avec nous d'Avignon. Est-ce que vous êtes là, Héloïse?
Oui, bonjour, je suis là, je vous entends.
Ça va bien, Avignon? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous autour de vous.
Alors ça va bien, la manifestation va commencer, la marche n'a pas encore débuté. Là, on est juste devant le pont d'Avignon, on se rassemble. Il y a de nombreuses pancartes et le groupe grossit de minute en minute. Et la marche va bientôt commencer.
Alors vous faites partie de Youth for Climate et puis également ANV, c'est Action Non Violente, encore une organisation différente.
Oui, alors c'est un autre mouvement qui a une histoire différente, en fait, qui s'est créé en 2015, mais qui a le même objectif. Donc en fait, pour moi, ça a du sens d'être dans plusieurs organisations qui ont les mêmes objectifs. C'est plutôt des modes d'action différents et voilà, des histoires différentes qui font que la lutte varie un peu de la manière dont elle est menée.
Comment vous vous engagez, vous, sur cette question climatique, concrètement, Héloïse, depuis maintenant quelques mois, pour vous, en tout cas?
Alors, moi, je me suis engagée à partir de la grève de mars. Au début, ça a pris la forme d'organisation de marche. En fait, j'ai déclaré ma première manifestation en mars, donc à Avignon. Mais ça ne s'est pas arrêté là. J'ai participé, en découvrant le groupe ANV COP21, à un camp climat cet été qui m'a fait beaucoup apprendre. J'ai fait de nombreuses formations, en fait, parce que je ne me sentais pas forcément à ce moment-là assez expérimentée. Et je passe aussi à l'action en continuant à organiser les marches, mais je ne compte pas faire uniquement des marches parce que pour moi, ça n'est largement pas suffisant et j'aimerais faire des actions plus concrètes qui ont un résultat direct.
C'est-à-dire, vous avez des idées particulières?
Il y a il y a un tas d'actions, en fait. Il y a énormément de créativité qui peuvent avoir des résultats directs. On peut par exemple penser à l'ONG Sea Shepherd qui va directement empêcher des braconniers de tuer des tortues sur des plages pour qu'une tortue puisse pondre. Ça paraît dérisoire, mais au moins ça a l'effet que cette tortue-là puisse pondre. Il y a aussi le blocage qui a eu lieu en avril à la Défense, blocage de 4 tours de la Défense pendant toute une journée par plus de 1000 activistes en France. C'était une grande première. Ça a d'autres effets directs, c'est de frapper un peu plus fort, je pense, au niveau médiatique. Il y a une immensité d'actions qui peuvent avoir des résultats directs, mais les marches en ont moins, c'est plus de la sensibilisation.
Merci en tout cas, Héloïse, donc en direct d'Avignon, et tous vos camarades qui sont en train de converger vers le pont, vous nous le disiez, pour cette marche dans le sud. Merci beaucoup, Héloïse. Bonne journée à vous.
Merci.
Camille.
Oui, je suis...
Au revoir. Et je suis avec moi Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander directement votre âge?
Oui, 67 ans.
Bon, alors qu'est-ce que vous faites ici? Parce que c'est, je vous demande cette question, c'est pas du tout provocateur, mais c'est vrai que vu la moyenne d'âge des gens qui nous entourent, vous dénotez un petit peu avec vos cheveux blancs.
Non, parce que les cheveux blancs sont de plus en plus courants chez les personnes de mon âge. C'est une tendance. Alors, c'est peut-être une première déconsommation, je ne sais pas.
C'était important pour vous d'être ici aujourd'hui, que toutes les générations soient réunies?
Bien sûr. Il faut que tout le monde, agisse ensemble, hein. Il n'y a pas de, c'est multigénérationnel, hein. Ce genre, l'écologie, c'est multigénérationnel, bien sûr. Oui.
Donc c'est important qu'aussi, les plus âgés, entre guillemets, hein, s'y mettent également. C'est pas qu'une manifestation. Ce n'est pas qu'un problème de la jeunesse, le climat.
Tout à fait. D'ailleurs, on a élevé nos 3 enfants avec des valeurs d'écologie, de partage, d'humanisme. Et visiblement, sans les forcer, ils sont naturellement dans cette voie-là. Ça veut dire peut-être dire quelque chose qu'il n'y a pas... je ne sais pas.
Bon, alors je vous souhaite une bonne manifestation.
Merci beaucoup.
Et qu'est-ce qu'on souhaite à la planète?
Qu'est-ce que je souhaite à la planète? Une prise de conscience, mais vraiment mondiale, parce qu'on ne pourra pas y arriver tout seul dans notre coin. Voilà. Hein, tout le monde.
Merci Catherine.
Alors, autour de moi, Camille et Claire et Ibrahim qui sont là. Alors Claire, manifeste pour un réveil écologique, ça c'est l'organisation à laquelle tu appartiens.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui fait sa particularité par rapport à celle qu'on a découvert là depuis le début?
Alors le manifeste pour un réveil écologique, c'est un mouvement qui est lancé en septembre dernier autour du sentiment qui, je pense, est partagé par beaucoup de monde, d'étudiants en tout cas, qui est que si on a de plus en plus conscience des enjeux, en fait, toute la réalité, que ce soit au niveau des cours et de l'emploi, elle est complètement hermétique à cette réalité-là. Et du coup, à partir de là, nous, on s'est positionné sur deux angles. Le premier, c'est l'enseignement supérieur, parce que comme ça a déjà été dit plus tôt, on n'est pas du tout formé à ces enjeux-là, et donc on agit au niveau national et puis dans nos établissements pour faire évoluer cette situation. Et puis le deuxième axe, c'est sur l'emploi, parce qu'évidemment, on est formé à un métier. Et si effectivement, on est de plus en plus à s'engager pendant notre week-end sur nos temps de personnel, en fait, comme on le dit dans notre texte, ça n'a pas de sens d'aller quelque part à vélo, travailler pour une entreprise dont l'activité contribue à l'aggravement de la situation.
Donc c'est comprendre tout, enfin, de sorte que tout soit cohérent finalement dans la façon dont nous vivons aujourd'hui.
Oui, voilà, en fait, on s'est globalement interrogé sur ce qui nous concernait en tant qu'étudiants par rapport à cette situation et puisque les leviers d'action dont on disposait et effectivement passer à un engagement qui est plus juste marginalisé mais qui est ramené au cœur de notre vie puisque de toute façon la réalité de la crise environnementale, c'est ce qui va faire ça va être un élément central de notre vie active.
Ce que j'entends finalement dans tous vos propos, c'est que cette marche, évidemment, elle est importante, mais que le travail, il se fait largement à côté, en amont et évidemment en perspective du futur. Vous êtes vraiment tous très très concernés et vous essayez de faire en sorte que ça irrigue absolument toutes vos activités.
On est très concernés et je pense que c'est pas juste les jeunes, l'ensemble de la population a de très bonnes raisons de se sentir concerné. Et encore une fois, évidemment, c'est plus un sujet qui a de bonnes raisons d'être marginalisé, par exemple dans les programmes scolaires à ceux qui en voudraient en faire leur spécialité ou dans les activités des entreprises à un département RSE qui prendrait des choses marginales. C'est quelque chose qui doit vraiment être remis au cœur de l'activité d'une entreprise, de notre vie à nous et voilà.
Ibrahim, Forum français de la jeunesse, encore une nouvelle organisation avec laquelle on fait connaissance. Pourquoi tu es là, toi, aujourd'hui?
Salut Mathieu, moi je suis là déjà pour représenter la jeunesse et pour marcher et participer à cet engagement.
Alors, cette organisation, elle s'occupe de quoi exactement?
En fait, le Forum français de la jeunesse est composé de 18 membres et en tout genre. Donc il y a des syndicats lycéens, des syndicats étudiants, des associations et aussi des partis politiques de jeunesse. Donc c'est vraiment représenter la jeunesse dans tout son engagement, dans sa diversité.
Ouais, donc il y a beaucoup de discussions, évidemment, hein, c'est ça. Mais on discute de quoi, concrètement?
On discute de tout, ça c'est important à dire. Bien sûr qu'on discute d'environnement, mais la jeunesse s'empare de tous les sujets. Ils peuvent parler de retraite, on doit donner notre avis vraiment sur tous les sujets.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé, selon toi justement, dans la jeunesse, dans les gens que tu croises aujourd'hui, avec lesquels tu discutes? Est-ce que vos sujets de discussion sont plus du tout les mêmes?
Non, nos sujets de discussion sont toujours les mêmes. On est toujours engagés, la jeunesse française est une des plus engagées. Mais maintenant, en fait, on se préoccupe beaucoup plus de notre avenir, on se préoccupe beaucoup plus de l'environnement. Et c'est pour ça que le FFJ agit à différents leviers. Elle agit au niveau local, où on organise des débats, des discussions, où l'on échange justement sur des propositions, sur ce qu'on doit faire. Et on discute aussi au niveau national, avec les différents ministères, avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, avec le Premier ministre également, pour justement mettre en avant nos propositions. proposition et laisser place à la jeunesse, tout simplement.
C'est quoi ta proposition, finalement, pour toi, en tout cas la plus fondamentale et celle à mettre en avant s'il fallait en choisir une là, aujourd'hui dans ce contexte?
Alors, j'en choisirais pas une, mais moi, ce que je dirais, en fait, c'est faire place, en fait, à l'écologie populaire. Aller, en fait, parler aux jeunes, à toute la population, auxquels on ne parle pas d'habitude, en fait. Aller dans les banlieues, aller à la campagne, aller parler à ces jeunes qui, en fait, ont quelque chose à dire. C'est surtout ça que moi, j'aimerais mettre en avant aujourd'hui.
Merci Ibrahim. Camille, on te retrouve.
Oui, moi je suis avec deux copines, Béatrice et Elisabeth. Bonjour.
Bonjour.
Alors,
qu'est-ce que vous faites là? Vous venez aussi soutenir les jeunes. Vous avez 68 ans toutes les deux, c'est ça?
Voilà, exactement. On a 68 ans et on vient soutenir les jeunes et puis la planète aussi un peu.
Parce que vous pensez que votre génération n'est pas suffisamment mobilisée? C'est chouette de vous voir ici.
Oui, c'est vrai que la majorité des gens de notre âge sont pas tout à fait dans le mouvement. Mais ça ne veut peut-être pas tout à fait dire qu'ils n'en pensent pas moins. Mais néanmoins, bon, on a souhaité, Elisabeth et moi, venir en duo, justement, pour soutenir ce mouvement et ces jeunes qui s'engagent. Et ça fait du bien.
Et alors, Béatrice, vous pouvez me dire ce qui est écrit sur vos pancartes, parce que vous avez toutes les deux des pancartes?
Ben, c'est des pancartes plus 1,5 degré, qui était le niveau que donnait la COP. Marqué la fonte des droits humains. Les droits humains, c'est l'eau, le climat, l'environnement, le logement.
Merci beaucoup à toutes les deux et bonne manifestation alors.
Allez, on va marquer une petite pause avec Alex Baupin et on se retrouve juste après, toujours en direct de la Marche pour le Climat, aujourd'hui à Paris.
France Inter, la Terre au carré.
Pourquoi ai-je glissé ma langue dans le passage étroit qui conduit à la gangue de ta bouche? Pourquoi ai-je glissé ma langue? Je m'en mords les doigts. J'aurais dû cette langue la tourner cette fois, car me voici exsangue. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pourquoi ai-je touché ton corps? Ce geste maladroit, je le regrette encore. Ton corps si chaud, pourquoi a réveillé un mort? Comme je maudis mes bras et leurs piteux efforts. Je suis parti tout droit dans le décor. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Je croisais ta route, qui donc a fait de moi ce petit tas de doutes? Est-ce toi et pourquoi? Faut-il que tu t'en foutes, que tu me laisses là? N'entends-tu pas? Écoute, mon cœur tambour qui bat annonce ma déroute. Infini, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix.
Ouais, il y a aussi le désastre total avec le
signe total.
Oui, c'est bon.
Ouais, donc là, normalement, chaque pays peut parler. Et derrière, en fait, c'est
interdit. pas plus le jour que la nuit. C'était Alex Baupin sur France Inter. Suite donc de cette Terre au Carré spéciale en direct donc de cette marche pour le climat avec toute la jeunesse qui s'est réunie ici pour Paris. Mais évidemment, il y a beaucoup de monde partout. Nous sommes en direct avec Camille Cronier. Camille, il y a quelques messages encore sur les pancartes.
Il y en a pas mal. Hein. Il y a des jeux de mots et puis des jeux aussi de slogans. Il y a désastre total avec la marque Total. Il n'y a pas de planète B. Celui-là, on l'a vu un peu partout. Sans planète, on a l'air bête. Apprenez à manger des fleurs pour sauver la planète. Voilà, les pancartes, il y en a vraiment plein. Elles sont colorées, elles sont belles et elles sont pleines de messages.
Allez, on va faire un petit saut à Montpellier parce qu'il y a Brune qui nous attend. Bonjour Brune.
Bonjour.
Ça va bien ?
Oui, ça va, ça va.
Alors, vous êtes étudiante en sciences de la Terre. Vous êtes où exactement là, Montpellier ? Racontez-nous.
Alors nous, en fait, on a fait la marche, on a commencé à 11h au Pérou, à la place du Pérou. Et notre but, c'était d'arriver au parvis de l'hôtel de ville. Donc là, on y est depuis 13h à peu près. Et voilà, donc on est en train de manger, ils sont en train de s'ambiancer sur de la musique. Ils ont collé des pancartes partout sur la mairie. Voilà.
Est-ce qu'il y avait du monde avec vous ? Est-ce que ça a mobilisé à Montpellier ?
Alors là, on était peut-être moins que les autres fois. On était peut-être 2000 à peu près, quelque chose comme ça. On n'a pas eu de comptage encore. Mais on était ultra motivés, quoi. Enfin, ça a chanté, ça a crié. On a alerté tous les passants qui passaient et voilà.
Bon, et vous, en tant que futur scientifique des sciences de la Terre, évidemment, c'est particulièrement important de vous mobiliser pour le climat ?
Alors oui, moi je suis consciente de ça depuis mon plus jeune âge, mais le fait de l'avoir étudié de façon approfondie, scientifique, factuelle, sans laisser de place à aucune interprétation possible, ça met une grande claque. Et je souhaite à tout le monde de recevoir cette claque à un moment ou à un autre. Et au moment où on a pris vraiment conscience de l'ampleur, ça nous oblige à ne pas faire marche arrière et à s'engager et à redonner un sens à notre avenir. Donc c'est pour ça que je me suis engagée, moi. Voilà.
Est-ce que vous croisez des sceptiques sur ces questions climatiques autour de vous et comment vous discutez avec eux ?
Alors oui, on en croise, hein, des camarades de classe, des professeurs, des passants. C'est vrai que c'est compliqué, mais justement, il ne faut pas essayer de leur montrer qu'on sait mieux qu'eux, mais je pense qu'il y a une grande partie qui est de l'éducation. En gros, je pense qu'on devrait les aider à s'informer, aider tout le monde à être également informé, parce que tout le monde a sa part à faire et on a besoin de tous les citoyens pour avoir une prise de conscience globale. Voilà.
Merci en tout cas Brune et passez une bonne fin de journée puisque la manif s'est déjà fait pour vous à Montpellier. Merci beaucoup d'être intervenu dans la Terre au Carré. Bonne journée. Camille, on rappelle que toutes ces actions pour faire pression sur les dirigeants du monde entier, bien c'est là le cœur de l'action. Hein.
Oui, ils se retrouvent tous ces dirigeants en début de semaine à New York pour le sommet l'Assemblée Générale de l'ONU. Ce sera mardi, précédé lundi par le sommet Action Climat, spécifiquement sur la question du climat donc. Et l'ONU annonce la couleur. Alors attention, je vais citer, ce sommet constituera une étape déterminante et donnera un nouvel élan en fixant un cap plus ambitieux et en envoyant des signaux puissants. Ça en jette, hein, sauf que ça fait des dizaines d'années, j'en ai déjà parlé, qu'ils nous le vendent, hein, leur marketing de l'espoir, les dirigeants, le sommet de la Terre à Rio 92 où Jacques Chirac alertait sur la maison qui brûle, la COP21 à Paris en 2015, le Make Our Planet Great Again d'Emmanuel Macron il y a déjà 2 ans. D'ailleurs, elle le dit, Greta Thunberg, ne parlez pas mais agissez et surtout écoutez les scientifiques. Hugo, tu voulais réagir sur ce sommet climat parce que Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, va même un petit peu fermer leur clapet à certains pays.
Oui, c'est ça. En fait, Antonio Guterres, en tant que secrétaire général des Nations Unies, a dit aux pays qui continuent à financer les énergies fossiles à créer pour produire le charbon, des usines, etc., comme l'Australie ou encore le Japon, qui voulaient parler. En fait, il leur a dit non, vous ne parlerez pas à ce sommet. Et en fait, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il y a plus de 300 milliards de dollars qui sont investis encore dans les énergies fossiles. Et je pense que faut absolument arrêter ces investissements et comparer aux investissements dans les énergies renouvelables qui sont seulement de quelques dizaines de milliards. C'est vraiment... on va ou quoi ?
Camille, j'ai trouvé deux camarades qui s'appellent Tobias et Maxime.
Oh,
bonjour.
Ils sont mignons.
Bonjour les garçons. Ça va bien ?
Oui.
Quel âge tu as, Tobias ?
Moi, j'ai 11 ans.
Tu as 11 ans et ton frère, c'est ça ?
Oui, c'est mon frère.
C'est Maxime qui a 7 ans, puisqu'on m'a donné l'information. Et vous êtes déguisés en quoi, là ?
On est déguisés en animaux pour
Bah pour les sauver, parce qu'ils meurent. Et moi j'aimerais quand j'ai des enfants, quand je suis adulte, j'aimerais préserver la planète, avoir une belle vie et sauver tous les animaux, notre environnement, parce que toute cette pollution, ça tue les animaux, ça tue la planète. Et franchement, j'aime pas ça. J'aimerais la sauver.
Maxime, toi, t'es déguisé en quoi ?
En tigre.
En tigre ? Pourquoi t'as choisi le tigre ?
Je sais pas.
Pourquoi il a choisi le tigre, à ton avis, ton frère ?
Parce que c'était un des seuls déguisements qu'on avait à la maison. Et parce qu'on l'aime beaucoup. Les tigres, on aime beaucoup. Surtout les tigres blancs. Merci.
Voilà, Tobias, on va être obligé de sortir un petit peu parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous.
Et Mathieu, on a un message sur les réseaux sociaux d'un consultant en ingénierie qui nous dit il faut dire à la jeunesse que leur mobilisation a un fort impact. Lui, il parle du discours des industriels qui est en train de changer. Voilà, ce consultant en ingénierie qui nous fait des commentaires avec le hashtag l'attaque, notamment sur Twitter.
Franck Courchamp est également dans cette marche. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Bonjour.
Vous êtes écologue, spécialiste de la dynamique des populations et de l'impact du changement climatique sur la biodiversité. C'était aussi important évidemment pour vous d'être là aujourd'hui.
Oui, bien sûr, même si je ne fais pas partie de cette nouvelle génération qui se mobilise. Les scientifiques sont censés être en soutien de cette mobilisation parce que justement cette mobilisation est faite pour dire écoutez les scientifiques qui depuis 50 ans disent qu'il y a un problème sur l'environnement et qu'il faut réagir. Le problème c'est que comme ce sont des jeunes, les politiciens ne les écoutent pas en disant ce ne sont pas des experts, mais les experts ça fait 50 ans qu'ils vous disent que ça va mal et maintenant les jeunes reprennent ce message en disant écoutez les experts. Donc évidemment on ne peut que venir les soutenir.
Alors finalement vous, votre sujet de recherche il allie à la fois le climat et la biodiversité qui sont probablement les deux thématiques cruciales du problème environnemental aujourd'hui, non ?
Oui, bien sûr, et les deux sont liés, c'est-à-dire que le climat et la biodiversité ont chacun des effets l'un sur l'autre. Le monde du vivant dépend du climat et le climat va dépendre aussi du monde du vivant. Les deux sont en crise.
Est-ce qu'à votre avis, il est simple de pouvoir faire comprendre justement les enjeux autour de la biodiversité, autour du climat ? C'est compliqué de comprendre qu'il y a des populations d'insectes qui s'effondrent, ou que les abeilles disparaissent, ou que les poissons, les oiseaux sont touchés. Comment on montre ça vraiment pour le faire comprendre ?
Je pense pas que ce soit compliqué de le montrer. Je pense que les données le montrent de manière assez claire et je pense que les gens comprennent assez bien. Ce qui est difficile, c'est de faire changer les choses. Il y a des choses qui sont simples à expliquer, mais difficiles pourtant à mettre en place.
Ouais. Merci beaucoup Franck, vous continuez cette marche. Allez, on va terminer avec Romain, avec Hugo. Il y a plein de messages encore qui arrivent sur les sites.
Puis, voilà. Il y a encore plein de super panneaux. Là, j'ai Chloé devant moi, 11 ans, elle a fait un panneau danger pesticides. Elle a fait un grand soleil qui brûle, enfin qui brûle beaucoup plus que d'habitude, on va dire. Ouais. Des usines, elle a fait un grand dessin. Il est beau ton dessin, Chloé.
Allez, Romain.
Eh bien, j'ai dessiné une baleine morte. Avec plein de choses à l'intérieur, du plastique et tout ce qu'il y a dans la mer.
Merci beaucoup, Chloé.
Voilà, un dernier message de Romain qui va conclure pour tous ses potes qui sont là aujourd'hui. Allez, le mot de la fin, Romain.
Le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire parler la démocratie. On a des outils qui sont là, disponibles aujourd'hui. On a la Convention citoyenne pour le climat, notamment, qui aujourd'hui est en train de se lancer, qui va se lancer début octobre. Ça réussit, donc là, c'est faire parler la démocratie pour résoudre les problèmes écologiques et sociaux. Et cette convention, ça marchera que si médiatiquement on en parle, que si vous, les auditeurs, là, je me parle tout de suite à vous, vous vous intéressez à cette convention et vous faites peser médiatiquement cette convention, on en a besoin.
Merci beaucoup à tous, merci aux équipes techniques de Radio France, à toute l'équipe de La Terre au Carré. Merci beaucoup Camille, on va continuer à suivre évidemment cette semaine chargée autour du climat. Vous serez à Monaco à partir de lundi,
oui,
avec le GIEC.
Le GIEC qui rend son rapport mercredi à Monaco.
Continuez à nous envoyer vos messages sur les réseaux sociaux, sur le mot-clé d'attaque. Et bonne journée à tous, dans un instant, Jean Lebrun.